bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Lina Kadoumoudadi, Alison Weir, Daniel Morin, Albert Algou, tout à l'heure Tanguy Pastureau et notre invité, la chorégraphe Blanc Cali. La grande chorégraphe Blanca Cali, on est ravis de vous accueillir. Blanca, vous... D'abord, vous allez bien?
Très, 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 très bien. Nous, il y a un rayon de soleil, donc...
Ah bon, je suis pas...
On est
à la cave. Donc
je vous en prie, appelez-moi Daniel.
On ne s'en rend pas compte. Vous avez votre spectacle, vous reprenez Électrique au 13e art à Paris jusqu'au 13 avril. Il faut se dépêcher pour le voir, ce spectacle. Spectacle où vous ne dansez pas, c'est vous qui êtes la chorégraphe.
Voilà.
Vous manipulez des hommes à moitié nus, trop musclés pour nous vexer. Vrai. Nous, on se dit oui, voilà, on se dit ils sont pas vrais ceux-là. Ils
harmonieusement sont... musclés.
C'est déjà
exactement.
Perdu.
Voilà. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est pas trop musclé, c'est bien. C'est comme on rêverait d'être finalement.
C'est des corps de danseurs.
Ils sont 7 ou ils sont 7 hein,
sur scène? Oui, 8 danseurs.
Ah bon?
Oui.
D'accord, c'est mes yeux, il y en a un que j'ai effacé de ma mémoire.
Tu vois les 7 nains toi, c'est pas...
Ah c'est ça, et elle était Blanche-Neige.
C'est ça le truc.
C'est la danse électro, est-ce que tout est parti de Daft Punk finalement, puisque vous avez fait la chorégraphie de ce clip réalisé par Gondry, Around the World, où là, c'était la techno et la danse qui se rencontraient dans ce clip.
Et ça n'a pas commencé à ce moment-là, parce que la danse électro n'existait pas. Mais effectivement, c'est une danse qui se fait avec la musique électro et qui a commencé dans les boîtes, dans les discothèques. C'est une danse parisienne qui a commencé...
Métropolis.
Exactement, qui a commencé à Métropolis, à la boîte qui est à côté de l'aéroport.
Orly, ouais.
Et c'était pendant des soirées que les gens s'est rencontrés. Ils jouaient avec les bras, avec les mouvements des bras. Et cette danse...
Mais pardon, dans Around the World, dans le clip... On retrouve déjà le côté moulin avant, un tout petit peu avec les bras tendus.
On
et aussi,
parle de la tectonique, ça ressemble
un peu. Ça veut dire que les origines de cette danse étaient pendant les soirées des tectoniques, marque de vêtements, qui avait commencé où ces danseurs qui se réunissaient une fois par semaine jouaient avec les bras et ont commencé ces mouvements. Quand la marque des vêtements a disparu, eux ils ont continué
à développer cette danse. Marque de vêtements.
C'était une marque de vêtements qui organisait des soirées, effectivement.
Les vêtements s'appelaient Tectonique.
Oui, c'était
une marque. Pas du tout.
Mais tout ça s'est disparu, mais il y a eu un groupe de danseurs qui ont continué à s'entraîner, à inventer des nouveaux mouvements. Et cette danse, ça a développé beaucoup. Et après 10 ans, il y a des danseurs incroyables qui font des mouvements extraordinaires. Surtout, c'est une danse qui est basée dans les mouvements très très rapides des bras et des hauts du torse et avec une flexibilité incroyable.
Ouais.
C'est désossé, on dit comme ça?
Désossé. Désossé, c'est quand on enlève la sauce. Désossé, c'est quand on enlève l'os.
Et ça contamine d'autres danses. Quand on voit des performances de voguing, par exemple, on voit très bien comment l'utilisation du haut du corps est complètement inspirée de la tectonique. Comment il y a tous ces moulinets de bras un peu gracieux, un peu. Et c'est fou de voir comment. C'est ce qui est beau dans votre spectacle, c'est de voir comment toutes les danses, tous les courants s'entremêlent pour n'en former plus qu'un seul, un mode d'expression.
Et c'est ça qui est bien, c'est qu'à travers toutes ces années, ces danseurs qui se sont inventés cette danse, qui est une danse française, incroyable, parce que dans les danses urbaines, la plupart des danses viennent des États-Unis. Et ça, c'est une danse d'ici. Et c'est eux qui ont inventé cette danse et ces mouvements. Moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je les ai rencontrés, j'étais tellement... passionnée par ce que je voyais. Je me dis, je suis témoin de la naissance d'une nouvelle danse. Donc, j'ai envie de faire quelque chose avec. Et j'ai pris leur langage, ce qu'ils savent faire, et j'ai construit un spectacle pour eux sur mesure.
Alors, sur mesure, oui, parce que la musique est faite sur mesure aussi.
Aussi.
Uniquement pour vous. Qui en est le compositeur?
Et Tao Gutiérrez, qui est un compositeur qui travaille avec moi depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années.
Est-ce que c'est lui qui compose la musique sur les chorégraphies que vous lui réclamez, ou il compose la musique un peu avec vous en choisissant le tempo, en choisissant peut-être les quelques sonorités, et ensuite vous créez la chorégraphie dessus?
avec lui, comme on travaille depuis si longtemps ensemble, on fait beaucoup d'allers-retours. On travaille un peu en même temps. J'ai fait un peu de la chorégraphie, je l'envoie en vidéo. En plus, il est à Madrid. Et lui, il regarde, il m'envoie une musique. Moi, j'essaie avec la musique, je le renvoie en vidéo. Et petit à petit, à travers tous les processus de création, on construit la musique et la chorégraphie en même temps.
Mais vous pouvez lui demander un break dans un morceau,
ah oui.
Que des percussions.
Je peux tout demander.
C'est génial. C'est génial.
C'est génial. C'est génial. Ici, tu me coupes 4 tons. Et là, tu me rajoutes 3. Ici, je mets un break. Et là, tu fais une respiration. Enfin, c'est ça qui est génial. C'est
que vraiment sur mesure.
Et pourquoi vous faites rentrer Bach dans les musiques de votre spectacle?
J'ai fait un.
C'est pas Bach, il y a une musique
pardon,
classique.
J'avais compris un playback.
Non, je crois que c'est du Bach ou je me trompe?
Non, non, c'est. Ça veut dire que ce que j'avais envie, c'est d'amener aussi une autre dimension à cette danse. Ok, mm-hmm. C'est la danse électro, ça c'est avec la musique un peu, ouais, à fond. Mais je me dis, je peux pas faire un spectacle où la musique est de debout jusqu'à la fin, comme si on était dans une boîte, avec aussi aucun.
Autant de pulsions.
Relief. Ou... Ouais. Donc je dis, pour que cette danse a aussi une dimension plus universelle, il faut l'amener ailleurs. Et donc, dès le bout du spectacle, j'ai voulu commencer avec la danse, la musique baroque. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que la musique baroque a cette chose très dynamique, tout ça, qu'eux, ils sont dans leur danse. Et j'ai un peu essayé dans les répétitions, j'ai trouvé que ça s'est marié très bien. Donc, on sort et on rentre dans la musique électro, dans la musique baroque, et c'est un jeu, mais l'énergie est toujours la même dans leur danse.
C'était le cas aussi dans votre film, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'était Electromathématrix, où là aussi, il y avait une pêche d'enfer et un mélange, là encore, des danses, mais des musiques, où c'était, la parole était donnée à tous, en fait. C'est un peu comme ça qu'on pourrait définir votre travail. Il y a une envie d'embrasser tout ce qui fait du bien, en fait.
Et on retrouve Gondry, on retrouve l'aide de Gondry aussi pour le film. C'est pour ça que ce clip de Daft Punk a été essentiel pour vous, non?
Oui, et moi j'adore...
Sans Gondry, vous auriez fait ce film?
Et ça veut dire qu'avec Gondry, c'était ma première expérience dans le cinéma.
Ouais.
Et c'était la première fois que j'ai fait une chorégraphie pour un film, non? Et à partir de là, ça a commencé une longue aventure pour moi dans les cinémas. Après Gondry, j'ai commencé à travailler avec beaucoup, beaucoup de directeurs qui m'ont appelé pour faire des chorégraphies, pour des vidéoclips, pour des publicités. Et ça m'a donné envie de faire mes propres films. Donc ça m'a fait aussi rentrer, en tant que réalisatrice, dans les cinémas. Et ce que j'aime, c'est ma vision de la danse et de le mouvement. Comment moi, j'ai créé une chorégraphie et la film pour la caméra, qui est très différent de mon travail pour la scène.
Ce que vous voulez faire passer, ce que font passer des chorégraphes dans un spectacle, il y a des valeurs humaines, il y a un message où c'est un spectacle pour le plaisir des yeux, comme une espèce de bulle dans le temps comme ça.
Moi, ce que j'aime de la danse, et c'est pour ça que j'ai devenu danseuse et chorégraphe, c'est que avec la danse, on peut tout raconter. Mais c'est un langage universel, on n'a pas besoin des mots. Mais on peut faire traverser beaucoup d'histoires, on peut faire traverser surtout beaucoup d'émotions. Et ce que j'aime le plus, c'est la joie. La joie qui transmet la danse, l'envie d'être bien, de profiter de le monde, de la vie, de le mélange de cultures, de toutes ces choses qui... Je ne sais pas, pour moi, la danse amène aussi quelque chose de très beau et très positif dans la vie.
Et alors le choix de ne mettre que des hommes, il n'y a pas une danseuse
sur
scène?
Parce que je vais profiter en tant que femme.
C'est bien assumé, Blanca, il faut le dire.
On aime. Enfin, non, soyez sérieuse. La vérité, c'est que bon, j'aime bien sûr les hommes beaucoup. Hein.
Ouais.
Mais en dehors de ça, c'est que dans la danse électro, pour l'instant, il n'y a pas de filles. Parce que c'est une danse qui est assez jeune, qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Et comme le hip-hop, au début, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et dans l'électro, il n'y a pas encore beaucoup de femmes. Maintenant, cette danse commence, depuis pas longtemps, à être enseignée dans certaines écoles. Et là, on commence à avoir des filles.
Mais de mémoire, il y avait, toujours dans ce fameux clip Around the World, il y avait des filles qui dansaient aussi là-dessus.
Oui, mais dans les clips de Around the World, moi, j'avais proposé à Michel Gondry d'avoir des groupes de danse différentes. Donc, j'avais un groupe de danseurs contemporains, un groupe de danseurs de jazz, de danseurs de hip-hop, de danseurs classiques. Il y avait presque tous les...
Oui, il y avait des squelettes, il y avait des monstres, il y avait des casques, il y avait des nageuses comme dans les comédies musicales hollywoodiennes.
Oui, oui.
C'est ça.
Et chaque groupe de danseurs venait d'un univers différent. C'est ça qui était drôle aussi, de mélanger toutes ces danses.
Alors, l'écriture du spectacle avec ces 8 danseurs qui sont juste incroyable. On se demande aussi, c'est un peu qui a commencé entre l'œuf et la poule, qui a commencé entre la chorégraphe et le danseur. Parce que un danseur, vous avez beau lui dire, fait tel mouvement, après c'est son interprétation qui fait le spectacle aussi. Donc est-ce que c'est vous qui vous inspirez des danseurs ?
Et dans ces cas concrets, comme eux, ils sont un langage qu'ils ont inventé. C'est des autodidactes. Mm-hmm. Et cette danse, c'est eux qui l'ont créée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de leur langage, de leur mouvement, de les mieux que chacun il sait faire, et j'ai fait une chorégraphie. Je prends les mouvements, je les mélange, je compose la chorégraphie. Et après, le plus difficile travail de cette équipe a été d'unifier les styles pour que ça soit aussi à la fois des individus incroyables qui ont des qualités extraordinaires, mmh. mais aussi un groupe ensemble qui travaille qui a la même énergie. Et ça, c'est quand c'est des personnes qui ont tellement des styles différents aussi, c'est beaucoup, beaucoup de travail.
Eux, c'est l'alphabet, les lettres de l'alphabet. Exactement. Vous faites les phrases et vous faites l'académie, vous régissez un petit peu le... Voilà.
C'est beau.
Vous codifiez l'ensemble.
Vous ne pouvez pas nous donner quelques conseils, essayez, parce qu'on n'y arrive pas du tout. C'est une cacophonie autour de la table.
Mais le choix, vous avez quand même choisi des danseurs, parce que c'est 8. Voilà.
Alors, oui, j'ai choisi un par un. Et c'est quand même des danseurs qui ont une technique incroyable. Ils dansent depuis plus de 10 ans. Et donc, c'est des danseurs très forts qui, pour arriver à ce qu'ils font, qui est quand même assez extraordinaire, et ont travaillé très, très dur.
Ça veut dire quoi, travailler dur? Ça représente combien d'heures par jour?
Ça, t'aimerais bien le savoir.
Je ne me rends pas compte. Mais, tu sais,
quand on répète, 8 heures par jour.
Ouf. Que la répétition?
Oui.
8 heures par jour.
Ouais.
Mais physiquement...
Tu veux venir, hein? Je vois que tu as envie de venir.
C'est un bon danseur.
Moi, je l'ai vu sur la piste de danse, franchement.
Finir sur toi, juste encore.
Il y a une vraie matière à attraper.
C'est ça, une matière à attraper.
Oui.
Non, mais c'est... Même 8 heures par jour, c'est du sport de haut niveau. Ce sont des athlètes.
Mais les danseurs, c'est des athlètes. Les danseurs, on travaille beaucoup...
Est-ce qu'il y a un travail justement physique en plus de la chorégraphie? Il faut, muscler, faire du gainage.
Chaque danse.
Ou c'est pas la peine parce qu'ils se dépensent tellement que c'est déjà.
Non, chaque danse a ses spécificités.
Ouais.
Waouh!
Maintenant, on n'y arrive pas parfois.
On aimerait tellement parler espagnol comme vous parlez français.
Même français. Ça, on aimerait bien.
Et par exemple, si on travaille avec les danseurs classiques, ou les danseurs contemporains, ou les danseurs de hip-hop, ou les danseurs d'électro, et chacun a une manière de s'échauffer, de se préparer et de renforcer son corps. Donc, effectivement, il y a toujours une heure et demie de préparation pour la répétition,
pour
ce qu'on appelle les cours.
D'accord.
Donc, on fait un cours de danse, ou un échauffement, on l'appelle comme on veut, mais c'est entre une heure et demie de préparation avant même qu'on commence à travailler.
Il était hors de question que vous soyez dans le spectacle? Que vous dansiez?
Non, je ne me vois pas du tout.
Pourquoi?
Dans ce spectacle.
Pourquoi? Ah,
mais parce que ce n'est pas du tout ma danse, et en plus, ils sont quand même 20 ans, hein. C'est la pêche, hein. Ça va. Hein.
Ouais, c'est vrai que le rythme est soutenu.
C'est un rythme, je pense qu'il faut avoir 20 ans pour tenir.
Non, ils sont impressionnants, ouais. Ils sont très impressionnants. Et ce sont des athlètes de haut niveau, des danseurs qui font des propositions aussi, ou alors c'est vraiment vous qui régnez avec votre autorité pendant les répétitions.
Non, et on fait des improvisations, moi je les regarde. Et des fois, on travaille ensemble sur, par exemple, les solos. Les solos, je fais vraiment avec chacun. On passe un moment, on voit des choses, on discute ensemble. J'ai construit vraiment petit à petit les choses, mais avec eux. Hein. C'est quand même eux qui sont sur scène et c'est leur danse.
Le spectacle s'appelle Électrique avec deux K. Ça se joue au 13e art à Paris jusqu'au 13 avril avec ses 8 danseurs révélés. Donc, déjà, vous les aviez dans Electrokiff, c'est ça?
Oui, une partie. C'est pas les mêmes équipes exactement, mais il y a un noyau.
La danse électro et ses jeunes. Et puis, il y a des moments de rire aussi, d'humour. Comme vous l'avez dit, beaucoup d'émotions par lesquelles on passe dans ce spectacle signé Blanc Cali. J'espère, Jean-Philippe Manœuvre, que vous avez bien compris. compris pourquoi
yes,
était là.
Yes, of course, I know why, Nagai. Je sais qu'à l'antenne, tu dois faire croire aux auditeurs, aux auditrices, qu'on vient juste de se retrouver, you and me. Mais en fait, faudrait leur dire aux auditeurs qu'avant les infos, on était déjà en train de se parler. Et si moi, bien sûr, je savais pourquoi on a invité Blancali, je peux dire fuck the fucking bullshit, que c'était pas du tout ton cas, mec. D'abord, quand tu m'as demandé si Blancali était la sœur de Bruce, pour déconner, je t'ai répondu non, c'est la fille de Christopher. Et sérieusement, tu m'as lancé super, je vais la brancher sur les films de vampires. Entendant ça, comme on était 5 minutes avant l'antenne, JNB, le rédacteur-chef de Coulommiers, arrive et tend tes fiches en te disant « Je vous préviens, maître, Blancali peut être incontrôlable. Albert Algou m'a raconté, parce qu'il était présent, que dans une émission animée par Daniel Morin, Blancali, complètement déchaîné, est monté sur la table du studio avec Albert, ils ont dansé, et la table, ils l'ont bousillé. C'est seulement maintenant que tu me préviens, bougre de foutriquet. Tiens, prends ça !» Et JNB de se prendre un bourre-pif. Et pourquoi cette Blancali était montée sur la table? Demanda Nagui à JNB qui, tout en épongeant le sang qui lui coulait des narines, balbutia. Mais pour danser, oh mon maître, Blancali est une grande danseuse et une chorégraphe géniale qui vient présenter Électrique, un ballet électro où les danseurs ont les bras qui se désarticulent et qui se disloquent, outrepassant toutes les limites de la flexibilité. Et ça aussi, c'est maintenant que tu me le dis. Tiens, moi aussi, je vais te disloquer, te faire danser Meunier Tudor. Et Nagui, joignant le geste à la parole, de tordre les bras de JNB jusqu'à ce que... un craquement sinistre se fasse entendre. En plus, j'ai horreur de l'électro, du tango et du flamenco et toutes les danses en haut que kiffe Blancali. Mais comme d'hab, je vais pipoter histoire de faire passer le courant entre elle et moi. Je dirai à Blanca que j'étais électrisé par électrique. Courant, électrisé, ouais, la panne. Voilà Blancali, c'est pas glorieux, mais c'est comme ça que ça se prépare. La bande originale, bonne fin d'émission.
Ah, merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
C'est vrai que vous avez fait danser ces deux masses informes.
Non, c'est Blanca qui a eu l'amitié de monter sur la table et de nous faire une petite démonstration.
Elle ne vous a pas fait danser, vous.
Non, Albert est monté sur la table et on a eu très peur. Pour le bien public.
Oui, et ce sont des qualités d'une vie, être danseur. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le sens du rythme, d'avoir l'agilité physique, la corpulence.
Bon, je pense que...
Faut dire la vérité.
Ouais, ouais, non, je pense sincèrement que tout le monde peut danser. Je pense qu'il n'y a aucune personne qui ne peut pas.
Dans un mariage ou dans une boîte de nuit,
voilà.
Mais sur scène.
Mais après, je pense que la danse comme profession, c'est quelque chose, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on a comme ça, on ne sait pas pourquoi, on a cette envie très fort et on y va parce que c'est plus fort que nous.
Mais vous avez déjà renvoyé un danseur en disant « tu n'es pas fait pour ce métier, tu n'es pas fait pour moi ».
Et ça veut dire que, par exemple, quand j'ai fait un spectacle, j'ai fait les auditions, donc il y a peut-être 300 danseurs qui viennent, j'ai renvoyé 240. Et après, j'ai gardé peut-être une vingtaine, et de ces vingtaines, peut-être qu'à la fin, j'ai gardé 10. Donc, effectivement, je vais choisir ce qui correspond à ce que moi, j'ai besoin. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas capables. Et après, je pense que quand on décide d'être danseur et qu'on s'entraîne et qu'on prend des cours et qu'on veut vraiment arriver, et on arrive.
Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'élus, comme vous dites. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent de faire carrière dans la danse. C'est très difficile de monter des spectacles de danse, de les produire, d'avoir des salles qui vous accueillent. C'est pas la même autoroute vers la réussite que la chanson ou le cinéma peuvent prétendre offrir aussi.
Oui, ça c'est vrai que c'est un métier.
C'est un choix difficile.
Moi, je dis toujours danseur, il faut avoir une grande passion parce que c'est un métier qu'effectivement, on n'a pas une industrie derrière. Mm-hmm. Donc, c'est un milieu difficile où il n'y a pas beaucoup d'argent, où les productions se font dans des conditions très difficiles. Et voilà, je pense qu'on est encore les artisanats.
Ouais.
et effectivement, le fait de ne pas avoir une industrie comme le cinéma ou la musique fait que, on travaille avec des moyens très inférieurs. Mm-hmm.
Les oreilles de Leïla ont sifflé quand on vous a dit que Blanca venait.
Oui, et Blanca, quand je pense à vous, évidemment, je pense à votre danse, à vos spectacles, mais aussi à la musique, à votre musique.
Ça vous fait rire.
C'est vous ?
Eh oui, c'est le groupe de flamenco rap de Blancali. Le nom, c'était...
Chochones.
Chochones. Alors, en traduction française, ça veut dire les petites...
Foufounes.
Voilà. Je ne l'ai pas dit, moi, comme
mais
ça.
C'était un groupe de femmes. C'était un groupe féministe.
C'est ça, monté dans...
Chochones.
Si.
Chochones. Voilà.
Chochones.
C'était au milieu des années 80. Flamenco rap.
Les foufounes.
Vous avez même sorti un album.
T'imagines l'émission musicale. Bienvenue, voici les foufounes.
Les petites.
Les petites foufounes. Les foufounettes.
C'est pas la même chose.
Et vous avez sorti cet album éponyme, c'était voilà, vous avez, voilà. Et je voulais vous parler de musique parce que, en effet, on l'a dit, contrairement à certains chorégraphes qui privilégient exclusivement la danse ou la gestuelle, vous, la musique, vous l'avez toujours en tête. Alors, on a parlé des grandes collaborations de Gondry, mais ça s'arrête pas là. Daft Punk, Coldplay, Paul McCartney, Lerita Mitsuko, Kanye West, Blur, enfin la liste elle est assez impressionnante. Et vous avez même chorégraphié, ça va faire plaisir à certains de mes amis très chers, la performance de Kylie Minogue pour le jubilé de la reine. Comment on se retrouve là-dedans? C'est fou, c'était en 2012.
Oui, parce que bon, j'avais déjà travaillé avec Kylie et elle m'a appelé.
C'est une icône incroyable, Kylie Minogue.
Oui, en Angleterre, c'est vraiment...
Mais elle est surtout extrêmement gentille. Elle a beaucoup, moi je la connais pas,
mais non, mais c'est juste...
Elle est simple.
Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est drôle. Elle est non, c'est un plaisir.
C'est une battante. Il ne faut pas oublier aussi qu'elle s'est battue contre la maladie.
Voilà, qu'elle a gagné.
Non.
C'était très important, cette présentation pour les jubilés, parce que bon, c'est un moment un peu.
Historique.
Historique. Donc, quand elle m'a appelé pour que j'ai fait la chorégraphie, ça m'a vraiment touché, cette confiance qu'elle a en moi. Et donc, je suis allé à Londres, on a travaillé, on a présenté quelque chose. C'est que. Qui était assez spéciale avec elle.
C'est une danseuse, c'est une vraie danseuse.
Oui,
elle
adore ça, et on a dû beaucoup répéter. Hein. Elle voulait vraiment que ça soit normal, hein. Il fallait que ça soit parfait.
Dans ces cas-là, quand on disait tout à l'heure que vous décidiez de ce que les danseurs devaient faire parce que vous êtes la patronne, mais lorsque vous tombez sur des Blur, des Kylie Minogue, des Catherine Ringer qui était danseuse,
Beyoncé,
là qui décide, c'est eux, c'est vous, comment ça se passe?
Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand un artiste comme ça te demande de faire une chorégraphie, quelque part, ils te donnent la confiance. Oui. Parce que finalement, c'est toi qui vas construire les mouvements. Mais ça vient d'un échange. Il y a en général une discussion, il y a un storyboard, il y a des intentions. Donc, ils me racontent un peu ce qu'ils ont dans leur tête, qu'est-ce qu'ils voudraient que ça soit bien les vidéos musicales qu'on va faire ou les spectacles. Et moi, je travaille à partir de leurs idées pour leur proposer quelque chose qui doit être au plus proche de ce qu'ils avaient rêvé.
Et qui touche, qui viennent pas changer leur image non plus complètement.
Exactement.
Parce que Beyoncé, je sais pas ce que vous avez, quelle chorégraphie vous avez réalisée pour elle.
J'ai fait deux. Un qui était pour une publicité, une campagne qu'elle avait fait. Et donc, c'était une danse qui était avec les éléments, la terre, l'air, les vents, les feux. Et donc, on a travaillé avec les éléments. C'était très dur pour elle parce que voilà, elle s'est roulée dans les sables, elle était dans l'eau, elle faisait froid.
Elle a un côté caniche quand elle est contente.
Et sinon, l'autre qu'on avait fait, c'était pour les vidéos pour sa tournée mondiale, et où elle était habillée en règne fantastique et elle rentrait dans
un
salon.
Comme une grande production, oui, absolument.
C'était magnifique.
Donc chaque chorégraphie était complètement différente.
Alors, vous, qu'est-ce que vous apportez? Parce que quand une star comme ça va, par exemple, chez un créateur de mode, elle sait ce que veut dire être habillée par Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier ou un créateur. Quand elle demande une chorégraphe, elle veut du Blancali.
Exactement.
Alors c'est quoi du Blancali?
Et ça veut dire qu'en général, ils voient mon travail, ça les inspire. Mais des fois, ils me disent, c'est ça qui m'a inspiré. Ils te montrent des choses de toi-même qu'eux, ils ont vues et qu'ils les ont inspirées.
Mais comment vous pourriez vous définir, justement?
Je suis incapable de me définir.
Même pas, même votre style de chorégraphie?
Je suis très éclectique, donc je n'ai pas un style de chorégraphie. Moi, comme j'adore toutes les danses, et je peux faire une chorégraphie pour les danseurs de flamenco, pour les gens de cirque, je peux faire pour une opéra, je peux faire pour un film. Et moi, ce qui m'éclate, c'est justement cette possibilité d'aller dans tous les sens et de dire que la danse ne s'arrête pas à chaque style, mais que la danse, c'est une seule et même pour tout.
Et ce qui est génial avec vous, c'est que vous avez réussi à faire danser des milliers de personnes au Grand Palais. Elle crée des événements, Blancali, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des happenings, et elle arrive, et ça a l'air pas organisé du tout, et tout d'un coup, tout le monde se met à danser, il y a une sorte de...
Transe.
Ouais, une transe collective, il y a un moment, et on revient vraiment... Non, on revient à l'origine de la danse, quoi, vraiment à cette sensation de partage.
Que la danse a toujours été quelque chose qui réunissait les gens pour célébrer, que ce soit le soleil, la pluie, non? C'est quelque chose qui est là depuis le début du temps et qui a toujours accompagné l'humanité. Donc, ça
pourtant,
fait partie de notre
son,
nature.
Le son au Grand Palais, c'est une catastrophe.
Oui, mais quand on danse, on s'en fout.
Et vraiment, pour y avoir un peu participé, le son, on s'en fout à ce moment-là. Parce que y a quelque
on est tellement
chose
dans la danse.
Mais c'est complètement imposé. En fait, à Paris, on se dit quand même qu'il y a de moins en moins d'endroits où on peut se réunir en masse pour danser tous ensemble. Et là,
il y a le banana quand même.
Y a quelques endroits où on peut danser, mais la taille du Grand Palais fait que tout d'un coup, on se dit waouh, on participe à quelque chose d'impossible, d'incroyable. C'est genre un bal des pompiers, mais puissance 15. Quoi. Et moi, ça me rend folle. J'adore parce que je trouve que c'est tellement rare ces moments-là de concorde.
De communion aussi.
Ouais, ouais. De joie. Ouais.
Vous avez déjà demandé de participer, d'organiser le bal des pompiers ou...
En fait, là, je vous en supplie.
C'est un challenge.
Ok, Valmy dans le 19e. Super.
Ok.
Et Danse avec les stars, on vous a proposé d'être juré?
Non.
Ah, c'est vrai.
Vous aimeriez?
Why not?
Ce serait une excellente idée.
Peut-être trop pointu par rapport à ce qu'ils veulent faire, non, j'imagine.
Oui, mais bon, la joie la qui caution. Habite Blancali, je pense que ça passerait.
Elle est communicative, c'est sûr. Dans quelques instants, nous allons parler de la musique que vous avez écoutée dans votre vie, la bande originale de la vie de Blancali. On va également recevoir Julia Bockel pour évoquer la danse qu'elle analyse comme étant une philosophie.
Il va se passer plein de trucs.
Ça, elle est docteur en philosophie. Il va se passer plein de trucs dans l'émission.
Génial.
Il y a même l'humeur d'Alessandro.
J'adore ce moment, c'est mon moment préféré de l'émission. Bonjour à tous, bonjour Nagui, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai bravé les retards, les grèves, les odeurs des sels, aïe et fines herbes, des rames de métro bondées. Car oui, j'aime mon travail. Oui, mais au-delà de ça, j'avais un message de la plus haute importance à vous transmettre. L'EFS lance un appel national au don du sang. L'EFS, qu'est-ce que c'est? C'est comme l'ESF, l'école de ski français, sauf qu'ils font pas de ski et que c'est pas une école. En effet, cette année, l'EFS, l'établissement français du sang, risque de manquer de réserve de sang à cause des nombreux ponts pendant lesquels les grosses feignasses seront absentes. Alors ça, pour donner du sperme, il y a du monde, mais quand il n'y a pas moyen de repartir avec le dernier autre vidéo, il n'y a plus personne, hein. Et ce qui est beau, c'est que tout le monde peut donner, quel que soit votre groupe sanguin. Si vous êtes du groupe O-, vous êtes donneur universel, foncez. Si vous êtes du groupe Kyo, vous êtes chanteur universel, vous aussi foncez. Si vous êtes turc, vous êtes donneur kebab. Bon. Alors, on est tous fatigués.
Non, toi.
Pour tous ceux qui veulent donner, c'est très simple. Rendez-vous dans les points de collecte de l'EFS. Pour ceux qui aiment recevoir, il y a aussi les collectes de points dans les fesses, mais ça, c'est une autre histoire. L'opération se déroule en trois phases. Premièrement, vous êtes accueillis pour répondre à un petit questionnaire totalement anonyme. Ça, c'est pratique, afin de vérifier vos antécédents. Des questions très basiques du style « Pesez-vous plus de 50 kilos ? Êtes-vous Xavier Dupont de Ligonnès ? Au cours des 4 derniers mois, avez-vous partousé comme Jaja sur des seringues porte de la chapelle ?» Ensuite, on procède au prélèvement. Le don de sang s'effectue en position allongée. Alors, c'est vrai que c'est jamais facile de donner son sang la première fois, on est mal à l'aise. Heureusement, ils mettent une petite ambiance particulière, un petit Santé Mag qui traîne, un poster de Mylène Farmer sur le mur et on se laisse vite aller. C'est très rapide, le prélèvement dure une dizaine de minutes. Après le prélèvement, il est important de bien s'hydrater et de se reposer pendant au moins 20 minutes durant lesquelles une collation vous est offerte. Sauf si vous êtes diabétique et que vous avez menti pendant le questionnaire, auquel cas vous serez sûrement dans le coma. Enfin, si vous avez peur du malaise vagal, sachez que c'est l'anagramme de Magali Vahe. Ça devrait vous occuper pendant la piqûre. Allez, trêve de plaisanterie. Pour plus d'infos et connaître les adresses des centres de collecte, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr. Donnez votre sang, c'est important.
Merci, Alessandra.
France Inter, Magali, la bande originale.
Il n'y a pas que le don de sang qui est important, si je peux me permettre. Il y a aussi le don de plaquettes. Qui est un truc extrêmement simple. C'est-à-dire que, d'abord, on est assis, on n'est pas allongé, si je peux me permettre.
Ah oui.
Et on prend du sang, ça passe par une machine, ils prennent les plaquettes et ils le réinjectent le sang. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Ah, tu peux juste donner tes plaquettes.
Oui. La quête et de frein aussi.
Non. Et ça sauve des vies, c'est vachement important.
Exactement.
Et ton plasma.
Et la moelle aussi.
Tes yeux, c'est important.
Don de moelle. C'est don d'organes, ça.
Il faut aussi le préciser, oui, le don d'organes, il faut en parler à ses proches pour que personne ne l'interdise après sa mort. Revenons à Blancali et surtout à sa musique. Et là, il y a un titre, je crois que c'est la première fois qu'on le met dans la BO, mais tellement je l'adore celui-là.
C'est pas la première fois.
Alors là, vous entendez ça, vous revoyez où?
New York.
Oui. J'ai dit, est-ce que vous arrivez à danser en boîte de nuit sans vous faire remarquer?
Oui.
Vous arrivez à danser comme une fille normale?
Ah, oui, tout à fait.
Sans faire le show, c'est vrai?
Oui.
D'accord.
Mais les danseurs,
par contre, si je viens avec tous les danseurs, alors là, c'est la mort.
Quand même, tu vois rapidement qui a le geste, qui ne l'a pas.
Ça dépend de quel genre de danseur. Danseurs de danse contemporaine sont pas forcément plus expressifs que des danseurs lambda.
Mais un danseur de foxtrot, on le repère. Non, c'est vrai.
Blanca, j'ai une question grave.
Oh non.
Si.
Pas grave.
Si, grave.
Oh là là.
Si vous êtes en boîte de nuit et que vous voyez des gens danser,
oui.
Est-ce que vous voyez, vous devinez qui fait bien l'amour, qui fait mal l'amour?
Ah bon?
Elle va dire oui.
Ça, c'est très délicat parce que j'ai vu des gens qui dansent très mal, qui font très bien l'amour.
Ah,
vous les avez vus jusqu'au bout alors?
Non, j'avais dit.
Ah, vous les avez suivis quoi.
J'ai suivi leur parcours.
Voir quelqu'un en espagnol, ça peut être surprenant.
Ça, je pense que ça n'a rien à voir.
D'accord.
Voilà. Le silence après
ça. Tout le monde
ça.
A ses chances.
Et pardon, l'inverse, quelqu'un qui danse très très bien qui fait mal l'amour.
Pareil,
ok, d'accord.
Ça peut arriver aussi.
Il n'y a pas de règle. Voilà. On est en 81, Leïla.
Et vous êtes donc à New York, vous avez 17 ans, vous partez pour suivre les cours de l'école de Martha Graham. Et ce voyage n'est possible que grâce à un torero. Allemand.
Alors
racontez-nous cette histoire parce que c'est quand même assez drôle.
Oui, c'est vrai, c'est presque irréel, hein, mais ouais. C'est réel. Réel.
Non réel.
Réel. Voilà. J'étais à Séville et dans la rue, j'ai rencontré quelqu'un qui était un torero allemand.
Déjà, on se dit c'est
incroyable, non? Et on a commencé à parler.
Helmut.
Et il m'a dit qu'il était là parce qu'il aimait les toreros et qu'il s'entraînait avec les toreros. Et à un moment donné, quand je lui ai dit que j'étais danseuse, il m'a dit, ah, mais peut-être qu'on peut essayer, tu me montres des mouvements. Je me suis trouvée à la rue, comment on dit, la terrasse, en haut de sa maison, ouais. Qui est au milieu de la, le barrio de Santa Cruz, qui est un endroit merveilleux à Séville. Et aller donner des cours pour utiliser bien les mouvements et la souplesse. Et voilà, juste comme ça. Et on est devenus très copains. Rien de plus, ok. Ne me regardez pas comme ça.
Mais c'est non, juste... mais non, non, mais on ouais, dansait ouais, pas bien. On n'a pas demandé si dansait bien. Ouais.
Et on est devenus...
J'ai simplement des images dans ce que, quand vous racontez de Séville, où en effet, pratiquement tous les toits sont des terrasses qui entourent la Riralda.
Ouais, ouais, ouais. J'ai un souvenir de ça,
sublime.
Incroyable.
Sublime. Des orangers à la place des... Nous, on a des platanes dans les rues, ils ont des orangers.
Exact. Donc, on faisait les mouvements. Et comme j'ai allé souvent à Séville, on est devenus assez copains. Et un jour, en parlant, il me dit, c'est quoi ton rêve? J'ai dit, je voudrais aller à New York parce que j'ai entendu quelque chose que, paraît-il, il y a une danse qui s'appelle la danse contemporaine, que nous, on n'avait pas en Espagne. Et que je voudrais savoir qu'est-ce que c'est. Et peut-être c'est ça que je cherche, parce que j'étais dans l'équipe nationale de gymnastique, je ne voulais plus faire la gymnastique. Les classiques, j'ai trouvé ça correspondait trop dans les codes à quelque chose de trop fermé. Je savais que je voulais quelque chose d'autre, mais ça n'existait pas en Espagne. Donc il m'a dit, on va réaliser ton rêve. J'ai dit, non mais comment je peux aller à New York, c'est fou. Il m'a dit, t'inquiète pas, moi j'ai plein de copains à New York, je t'accompagne, on va parler avec tes parents, et je t'accompagne à New York pour t'installer, pour t'aider. Et il est venu jusqu'à Madrid avec moi. Et on allait voir mes parents, qui nous ont regardés avec une tête un peu...
Bonjour, je voudrais amener votre fille à New York.
Bonjour, je suis Martha Graham. Mais... non, monsieur.
Mais c'était assez incroyable parce que ma mère, elle entendait que je voulais aller à New York depuis si longtemps. Et quand, je ne sais pas, il est venu, il a dîné à la maison et on en a parlé pendant un mois. Et finalement, mes parents ont dit, ok.
Et il n'y a pas eu de bisous, rien du tout.
Rien de tout.
Olé.
Pourtant, un matador allemand, moi,
ça m'excite.
Ouais. Et du coup, ça lance votre vie, en fait, parce que c'est ça, c'est Martha Graham, c'est les écoles d'Alvin Ailey, c'est la découverte de cette danse qui vous manquait tant, quoi.
À 17 ans, à New York, en train de réaliser mon rêve, j'allais dans toutes les écoles, je prenais, je ne sais pas, 8 heures de cours par jour.
Vous avez dit que vous faisiez de la gym et de la danse, vous rappelez que vous étiez dans l'équipe nationale de gymnastique, quand même, d'un très haut niveau. Vous l'avez revu depuis ?
L'équipe ?
Non, le monsieur allemand.
C'était bien.
Non, parce que ça veut dire j'ai gardé contact avec lui pendant très très longtemps, beaucoup d'années, mais malheureusement il est décédé, donc il n'est plus parmi nous.
Pardon.
Mais c'est quelqu'un qui resterait toujours dans mon cœur parce qu'il m'a vraiment accompagné dans mon rêve.
Et quel était son prénom ?
Michael.
Michael. Michael. Voilà.
Je l'appelle Michael. Ou
Michel. Je ne sais pas. Voilà. En 92, vous écoutiez. Là, on est plutôt au Maroc avec cette musique.
Maroc.
Toura Toura Tourkelila.
Oui, Maroc parce que...
Hassan Akmoun.
Oui. À New York, j'ai tombé amoureuse d'un mathématicien qui travaillait pour l'éducation nationale française. Donc, à un moment donné, on l'a dit, voilà, il faut rentrer et travailler pour l'éducation nationale. Donc, il s'est trouvé au Maroc. On a donné un poste au Maroc et moi, j'étais à New York. Et à un moment donné, je ne pouvais plus vivre sans mon amour. Et je suis venue... Elle l'a retrouvé au Maroc, où il a vécu pendant 8 ans. Et là, j'ai eu une expérience extraordinaire parce que j'ai rencontré les Gnawa.
Les Gnawa, ouais.
Et les Gnawa m'ont fait découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout, qui est la trance, la danse des trans. Et ils m'invitaient régulièrement à les soirées Gnawa où les gens dansent pendant toute la nuit. C'est des soirées incroyables.
Oui, comme si des esprits les habitaient. Voilà. Ouais.
Et c'est des soirées où tout le monde danse, les enfants, les femmes, les gens très, très, très âgés. J'ai vu une femme qui à peine pouvait marcher une nuit, elle se met debout et commence à danser avec une énergie et après, elle finit de danser.
Ça s'appelle un miracle, ça.
Voilà. Non, mais sincèrement, c'est une musique et une ambiance qui porte tout le monde à danser, des enfants aux plus âgés. Et j'ai découvert quelque chose de la danse que je ne connaissais pas. Il m'a inspiré beaucoup pour faire un spectacle sur la trance. Donc, qui a été mon premier spectacle ici en France.
Nana et Lila, c'est un spectacle que vous avez même produit un peu toute seule. Vous avez ce petit côté qu'on retrouve encore aujourd'hui, très entrepreneur. Vous organisiez des soirées à Paris qui réunissaient... vous avez pu croiser des Alaya, on a parlé de la mode tout à l'heure, des Gautier, des Paco Rabanne, Margiela, tous les gens qui sont ouverts.
C'est surtout eux qui ont lancé la tendance, non ?
Ouais.
Ouais, c'est des collaborations aussi parce que il y a une tentative de mélanger tous ces univers. Je crois qu'Almodovar aussi a coproduit, votre deuxième spectacle.
Ouais.
Donc c'est des rencontres aussi qui se passent à quel endroit ? Parce que c'est la danse, le cinéma, la mode. A priori, vous êtes loin. Et pourtant.
Oui, mais en même temps, j'ai toujours été entourée d'artistes. Des moments que j'arrive à New York, j'ai compris que l'art, c'était ça aussi. C'était toutes ces rencontres. On travaillait tous ensemble. On était tous à l'école. Donc, j'ai aidé, par exemple, ma sœur qui faisait l'école de cinéma. Je l'ai aidé pour faire ses films. Ouais. Et j'ai joué la comédienne parce qu'elle avait besoin. Après, on avait des copains musiciens. On les aidait pour les concerts. Eux, ils m'aidaient pour mes spectacles. On faisait les performances, les peintures, les graffitis. Enfin, on était un groupe d'artistes. Et à ce moment-là, j'ai compris que le mieux, c'était d'avoir beaucoup de copains dans tous les salles, de s'inspirer les uns des autres et de s'aider surtout.
Ouais.
En 2002, vous écoutiez Gabriel Fauré. Ici interprété par Ostropovitch.
Et en 2002, c'est votre premier long métrage ? Ça y est, vous passez à la vitesse supérieure. C'était le défi.
Cette musique était dans le film ?
Non, cette musique, c'était un spectacle qui s'appelle Les Songes des Minotaures.
D'accord.
Et racontez-nous un peu l'histoire de ce film, le défi. Tout d'un coup, de se dire, voilà, j'écris et je réalise un film. Et je parle de quoi ?
C'est une comédie musicale, hip-hop. Et c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai travaillé beaucoup avec les danseurs d'hip-hop et je me suis dit, ça serait génial de faire une comédie musicale, mais avec quelque chose qui n'existait pas avant, qu'ils n'auraient pas pu faire avant. Oui. Donc, j'ai pris les 150 danseurs d'hip-hop à Paris et on a fait un comédie musicale qui est l'histoire de deux groupes qui doivent faire un battle, une histoire d'un enfant avec sa mère, mais surtout 40 minutes de danse incroyable dans les films et tourner aussi avec tout ce que j'adore, les grues, les mouvements des caméras, les steady, tout bouge.
Ça a été facile de convaincre les producteurs ?
Et non, en fait, c'est ça que c'est très difficile. Les cinémas, déjà, c'est difficile. Parce que c'est difficile. Trouver les producteurs, c'est très difficile. Mais quand tu dis les mots danse, c'est mille fois plus difficile. Parce que tout le monde fait oh ouais, non, mais enfin. Tout c'est de suite, ça bloque.
C'est que c'est souvent mal filmé, la danse.
Ouais,
c'est pas facile à filmer, non, mais que ce soit à la télévision ou au cinéma, quand c'est une chorégraphe qui filme, on est rassuré. Mais il y a une écriture de la danse et tous les réalisateurs de télévision n'ont pas cette lecture de la danse. C'est très particulier. Même quand il s'agit de chorégraphie derrière des chanteurs sur des émissions de variété, faut comprendre pourquoi la chorégraphie.
C'est vrai que des fois, ça m'est arrivé de faire des chorégraphies pour des films ou pour justement des choses en télévision et d'être très très frustré de la manière qui a été filmée parce que ça peut, tout ton travail peut détruire si c'est mal filmé parce qu'il y a un sens pour les mouvements, un sens dans la composition. Donc moi, quand je conçois une chorégraphie pour la caméra, je la visualise déjà aussi avec la caméra et avec les mouvements de la caméra. Et maintenant, si quelque chose que j'ai imaginé avec une caméra qui bouge de côté, on met la caméra derrière et de l'autre côté, c'est sûr que tout ton travail est quelque part détruit.
Choisir un plan serré, un plan large, est-ce que voilà, il suffit que le réalisateur aime bien une danseuse pour que d'un coup on aura d'autres et ainsi de suite. Autre chose à raconter ou pas? On change d'année?
Ouais, on change d'année.
D'accord, on est en 2013.
Oh là là, là, là.
Pointer Sisters sont dans votre lecteur de musique en 2013.
Ça, c'est Pedro Almodóvar. Parce que...
C'est lui qui chante, hein?
Les amours passagers.
Ouais. C'est Pedro qui m'a demandé de faire la chorégraphie pour son film Les amours passagers. Et ça, c'était la musique qu'il voulait utiliser. Et c'était très drôle parce que quand il m'a appelé pour me demander de faire cette chorégraphie, il m'a dit, ça, c'est pas dans un avion. Et moi, j'ai... Un avion, on sait très bien qu'il y a très peu d'espace dans un avion quand même. On s'est connus partout. Et juste quelques jours plus tard qu'il m'avait demandé, je me suis trouvé dans l'avion. Donc, je me levais dans l'avion et j'essayais des choses. Tout le monde me regardait, mais bon, moi, il fallait que je commence à préparer la chorégraphie. Donc, j'ai profité, j'allais dans les toilettes, dans les couloirs, j'ai testé la hauteur, les trucs, je me mettais à genoux et tout le monde me regardait. Mais c'est comme ça que j'ai fait la chorégraphie.
C'est génial. Mais l'idée de la contrainte de l'avion,
c'est super drôle.
Bah oui.
Et 2013, c'est aussi l'année de la création de Robo, votre spectacle. Se dire, voilà, on est entouré de machines, et si on leur donnait la parole sur scène, finalement, c'est ça l'histoire.
Oui, parce que on vit tellement dans un monde qui est en train de se transformer, et on vit dans une révolution technologique. Notre monde d'avant et d'après, ça sera jamais le même. Et je me dis, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que c'est? Cette relation qu'on a avec les machines et comment sera le monde du spectacle dans le futur. Donc je me dis, voilà, je vais essayer déjà avec ce qu'on a. Donc j'ai pris 8 robots et une orchestre d'un artiste japonais qui joue tout seul. C'est les machines qui jouent la musique tout seul. Donc j'ai la musique live par des machines et 8 danseurs qui sont les robots, bien sûr accompagnés de 8 vrais danseurs, parce que sinon c'est ingérable.
Et qu'est-ce que ça détermine comme nouveau mouvement? Parce que tout d'un coup, si c'est plus régi par l'articulation humaine, un robot peut faire des mouvements qui sont impossibles pour le corps humain. Ça veut dire qu'on réfléchit aussi à créer
l'intelligence artificielle, la danse artificielle. Tout sera artificiel.
Le genou d'un robot, pour le coup, il est particulier comme le nôtre. Potentiellement, on peut le faire chavirer vers l'avant. Donc ça donne un espace espace de création
encore
plus grand.
En réalité, les robots sont 1000 fois moins performants, millions moins que les corps humains. Donc, j'ai dû plutôt faire à l'envers. Ça veut dire qu'il faut trouver les limites de les robots au niveau mouvement pour que je puisse après travailler dans les mouvements des danseurs à partir de leur mouvement des robots. C'est, ils sont très, très
robots,
limités.
Est-ce qu'il y a certains robots qui vous ont fait des propositions sur certains mouvements ou pas du tout?
Oui, parce qu'ils tombent souvent. Donc, quand ils tombent, j'ai dit maintenant, tout est relève tout seul. Oh. Et voilà. Et là, ils font des propositions, je peux te dire.
Le spectacle s'appelle Électrique. Il est au 13e art à Paris jusqu'au 13 avril. Mise en scène par Blancali avec ses 8 danseurs. On va parler de la philosophie de la danse avec Julia Bocquel. Bonjour, Julia.
Bonjour.
Merci de venir à notre micro. Vous écrivez et vous signez donc Danser une philosophie chez Carnet Nord. Vous enseignez l'esthétique et la philosophie en école d'art. Et vous exercez parallèlement à cela votre métier aussi de critique d'art contemporain. Tout à l'heure, Blancali disait que la danse, pour elle, c'était une manière d'être joyeuse, d'être vivante. C'est aussi une définition que vous donneriez, une philosophie que vous donneriez.
Ah oui, tout à fait. C'est vraiment un des premiers chapitres en fait, de mon livre qui porte sur la joie, le plaisir de danser. À la fois, la danse procure du plaisir, procure de la joie et diffuse de la joie, répand.
Aux deux, à celui qui danse et à celui qui voit.
À celui qui danse, mais aussi à celui qui la voit. Enfin, il y a vraiment quelque chose. C'est les neurones miroirs. Hein. On parlait de transhumanisme et de robots, mais il y a aussi les recherches en neurosciences qui montrent qu'on a des neurones qui font qu'on est très sensible au mouvement. C'est ce qui fait qu'on baille quand quelqu'un baille. Et je pense que devant un spectacle de danse...
Que lorsqu'on a de l'affection pour lui ou pour elle.
Aussi, mais le baillement quand même... Ouais.
J'ai pas l'affection tellement pour beaucoup de monde dans le bus, moi, alors du coup.
Ça marche même avec les chiens.
Ils nous ont dit, oui.
Qu'on n'aime pas trop, donc ouais.
Il y a des dossiers.
Bon, a priori, il y a quelque chose quand même de très, très communicatif. Et je pense que c'est ce qui se passe dans la danse et dans les... c'est ce qu'aime Blancali et c'est ce que j'aime aussi dans ce spectacle, cette énergie très très forte quoi, qui la contagion dont parle aussi Léon Tolstoï, c'est vraiment le...
Donc danser est une philosophie.
Alors danser une philosophie, oui, ça dépend ce qu'on entend par philosophie, il faudrait distinguer différents sens, mais c'est vrai qu'on peut parler de la danse comme manière de vivre pour le plaisir qu'elle procure, comme hobby, comme passion, et puis on peut parler de la danse avec un peu plus de sérieux, disons, de manière académique, et toutes les questions sérieuse qu'elle soulève sur la relation entre le corps et l'esprit, l'expression des émotions, qu'est-ce que c'est que d'exprimer des émotions avec le corps, qu'est-ce qui fait que devant une danse pas narrative, sans récit, je comprends quand même quelque chose, j'ai l'impression de saisir quelque chose d'intellectuel, enfin, que j'aimerais expliquer par des mots, enfin, donc c'est vraiment une mine de questions pour moi la danse, et pas simplement danser une philosophie.
Vous avez trouvé des réponses, parce que c'est bien de poser les questions, mais alors quelles questions?
Alors j'ai cherché des réponses, mais alors...
Chaque spectacle pose encore de nouvelles questions.
Bien sûr, c'est très très vaste aujourd'hui, toutes les questions qui peuvent être... des messages politiques, des questions de différentes sortes, de toute nature. Oui, alors j'ai cherché des questions, mais j'en ai pas trouvé facilement. J'ai commencé à danser très très tard, déjà à l'âge de 18 ans, et je pense que pour moi, c'est pour ça que la danse a été un terrain d'expérimentation aussi fertile et fécond, c'est qu'à la fois c'était un handicap quand même par rapport à mes amis au conservatoire qui dansaient depuis très longtemps, et je me retrouvais avec des petites danseuses qui arrivaient à la taille de mes genoux en danse classique par exemple. J'apprenais vraiment les bases.
Vous n'aviez pas le même niveau en danse, même niveau en taille.
Alors en taille non plus, voilà, surtout pas en taille. À ce moment-là, on sent vraiment le décalage.
On va préciser à nos auditeurs que vous êtes une grande, belle philosophe.
C'est très gentil, merci beaucoup. Je vais rougir comme les murs qui sont présents.
C'est la couleur inter.
C'est logique.
Je sais que d'être à France Info et devenir jaune. Donc
C'est vrai que ça fait un peu plus malade tout de suite. On a un petit problème au foie.
Oui, donc alors la philosophie, parce que c'est vrai que il faudrait redéfinir la philosophie pour redéfinir la danse, pour voir si c'est une philosophie.
Oui,
si vous avez mis les deux mots côte à côte, c'est pas naïf.
Alors c'est ça, faut pas se méprendre sur les deux sens, mais ce que j'ai essayé de faire, enfin de philosophie, c'est-à-dire on pourrait dire voyager, c'est ma philosophie, manger végétarien, c'est ma philosophie, ou l'apéro, c'est ma philosophie, mais je veux dire, il y a ça, puis d'un côté, c'est vrai qu'il y a des questions qui sont un peu plus sérieuses, et c'est ce que j'ai essayé de mélanger dans ce livre, en fait. J'ai commencé à faire une thèse, c'était vraiment un sujet que qui me tenait à cœur et que j'ai approfondi, mais c'est les premiers livres que j'ai écrits et tombent un peu des mains, personne ne les a lus, enfin peut-être mon père pour corriger les fautes. dans ce livre-ci, j'ai essayé de brasser plus large et de en quelque sorte vulgariser un petit peu les problèmes compliqués parce que j'ai vraiment envie de les partager, un peu comme une chorégraphe peut avoir envie de partager des émotions dans la danse.
Non, et mais le mélange, je vous l'avais dit tout à l'heure, le corps et l'âme, ouais. c'est quand même quelque chose qui se sent et qui se ressent.
Mais complètement. On ne peut plus séparer aujourd'hui, on ne peut plus avoir une vision purement dualiste, comme on a souvent en France, même inconsciemment. On a hérité de Descartes qui a un petit peu.
Le corps et l'esprit.
Qui a séparé le corps et l'esprit d'une
manière
très marquée.
Quel abruti
celui-là. Oui, fondateur de la philosophie moderne.
Ou qui a fait du corps quelque chose qui nous emprunte et qui nous alourdit, quoi. Comme si ce n'était pas un espace de vie et de libération.
C'est ça, c'est un des paradoxes en fait. La philosophie a longtemps ignoré la danse, en partie parce que c'est l'art du corps, on pourrait la définir comme l'art du corps, et parce que justement il y a cette mauvaise réputation du corps, de la sensibilité, la chair faible qui nous alourdit.
C'est une prison.
Platon, voilà, la prison,
mais est-ce que justement,
les illusions.
Est-ce que l'on apprend quelque chose, est-ce qu'on tire un enseignement philosophique de la danse, de la souplesse, des limites du corps, de la flexibilité, de la force du travail, de se dire il y a des mouvements que je n'arrivais pas à faire, mais au bout de 8 heures par jour de répétition, je finis par l'obtenir. Est-ce que voilà, tout ça, c'est une forme de philosophie. C'est l'inverse, c'est la danse qui apprend la philosophie.
C'est ça. C'est ce que j'ai essayé de dire un petit peu, c'est montrer que plutôt que d'opposer systématiquement danse comme le monde du corps et puis la philosophie comme le monde de l'esprit, avec l'image du philosophe complètement désincarné qui travaille avec, qui écrit avec sa plume à la lumière de la bougie, mais qui bouge pas pendant des heures sur sa chaise. En fait, il y a quand même une complémentarité assez forte. La danse rend philosophe et puis la philosophie permet de comprendre la danse. Et j'ai insisté là-dessus, sur ce côté vertu du danseur. Enfin, pour moi, la danse est tellement exigeante, tellement, c'est ce que vous suggérez, c'est que ça implique tout le corps humain, tout l'être humain aussi, et la personne. Et en fait, danser, c'est à la fois développer sa technique, mais c'est aussi, évidemment, inévitablement, comme le corps et l'esprit sont complètement liés, développer des qualités humaines, des qualités d'interprétation super riches. Enfin,
donc ça apprend des qualités de partage aussi.
Des qualités de partage, d'écoute de l'autre dans une salle.
D'intuition,
d'intuition.
Faut que je me mette à la danse.
C'est une bonne idée.
Comment définir la danse contemporaine? Et là, c'est un peu aux deux que j'ai envie de m'adresser, mais quelle serait vous, Julia Bockel, votre définition de la danse contemporaine?
Alors là, c'est vraiment les questions. J'ai l'impression de me retrouver dans mon jury de thèse.
Merci. Pardon, je suis très basique comme garçon.
Non, c'est très bien. Mais alors, j'ai essayé de définir la danse. Ça a été un petit peu un échec. Enfin, c'est pas un échec, mais je crois que
définir la danse, gagner du temps.
Ouais. Non, définir la danse, ça serait donner son essence, c'est-à-dire donner quelque chose de commun, ce qui serait commun en fait à tous les spectacles de danse, ce qui est complètement impossible aujourd'hui. Il faut pas se voiler la face. Et heureusement qu'il y a pas quelque chose de commun forcément à tous les spectacles.
Mais ce qui a été contemporain, c'est de casser des codes. C'est
il y a eu toute une entreprise.
Sortir des opéras.
On a l'impression d'une révolution permanente, c'est ça. Briser les codes, faire du mouvement inexpressif, du mouvement qui ne danse pas. Blancali fait de la danse qui danse, moi, c'est ce que j'aime. Mais il y a aussi de la danse qui ne danse pas.
Ouais. Enfin, donc, on peut commencer par ça, moi.
Donc on ne peut pas donner une définition de la danse qui inclurait à la fois la danse et la non-danse, parce que ce serait contradictoire. Du coup, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de caractériser la danse. On ne sait pas la définir, on l'a caractérisée. Bon, voilà, c'est un petit peu habile. En gros, c'est donner une définition avec un ensemble de caractéristiques qu'une œuvre peut remplir ou ne pas remplir. Donc l'expressivité du corps, un questionnement induit par le spectacle. On m'a dit, c'est plus une définition. Je dis, oui, c'est vrai.
Et vous, Blancali, qui avez-vous admiré comme chorégraphe? C'est les Pina Bausch, Caroline Carson.
J'admire beaucoup toutes ces femmes. Et qui ont construit la danse, parce qu'il faut dire que les hommes, comme les dieux, ont arrivé plus tard.
Il y a eu Maurice Béjart.
Non, bien sûr. Mais je veux dire, il y a eu quand même des grandes déesses de la danse.
Il y a eu
une époque où les femmes, la danse était plus quelque chose des femmes, même s'il y avait, bien sûr, Merce Cunningham et beaucoup d'autres hommes. Mais il y avait une grande féminité dans la danse et des femmes très révolutionnaires, parce que dans leur temps, déjà, être danseuse, c'était terrible, parce que tout est regardé presque comme une prostituée. Mais en plus, sortir de la danse classique, ça veut dire inventer autre chose, comme a fait par exemple Martha Graham, c'était incroyable.
Trisha Brown aussi, elle a inventé
Trisha Brown, Mary Wigman, enfin, il y a eu des femmes pionniers incroyables. Donc je les admire tous pour être femmes, pour décider de faire de leur vie la danse, dans des moments où la femme n'était pas du tout libre de faire ce qu'elle voulait, et en plus d'inventer et d'ouvrir les portes pour nous, qu'on est arrivé après, pour la danse contemporaine, ce qui veut dire, on fait ce qu'on a envie de faire en toute liberté. Donc je peux inventer ma propre danse. C'est ça pour moi la danse contemporaine. Oui.
Pourquoi, Julia, à votre avis, les médias en parlent si peu? Pourquoi on n'en voit pas tant que ça à la télévision?
Pourquoi
c'est dur d'en faire au cinéma? Pourquoi?
Ouais, je trouve ça paradoxal, à la fois compréhensible, parce que comme c'est un art du corps, on a toujours envie, mais visible, visuel, je crois qu'on cherche une explication comme on cherche au théâtre une histoire. On a toujours ce réflexe de vouloir chercher, puis de dire très vite, je comprends pas, quoi, parce qu'il y a que du mouvement, donc qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois lire quand on connaît pas, quand on est novice? Donc je comprends, de ce point de vue-là, le corps, il y a quand même quelque chose de muet, d'une certaine manière, si on attend de la parole, du récit.
Mais c'est un art, et comme tous les arts, il faut se laisser porter et sans chercher à comprendre, en disant c'est trop complexe. À ce moment-là, on va dans aucun musée, on dit non, je peux pas comprendre.
Et c'est là où je vous rejoins, parce que quand vous dites c'est du corps, c'est de la musicalité aussi, en fait. Et je pense qu'il peut y avoir une appréhension de la danse beaucoup plus immédiate, et qu'on peut avoir toujours plusieurs lectures d'un spectacle, une lecture très immédiate, très formelle, et puis simplement goûter le plaisir de l'énergie qui est libérée sur scène, voilà. Sentir, voir comment la danse rend visible la musique aussi, les mouvements de la musique.
Docteur en philosophie, danseuse, et elle communique bien, elle s'exprime bien, c'est passionnant. Julia Bocquel, pardon,
ça vous parlez bien.
Ouais, c'est vrai. C'est chez Carnet Nord et ça s'appelle Danser une philosophie. Merci Julia d'avoir trouvé le temps de venir à ce micro. Tanguy Passureau sera là après les infos de midi. Bonjour Tanguy, pour nous parler des histoires de famille qui ne s'arrêtent jamais.
Non, à part Francis Holmes qui n'a pas de nouvelles de la sienne puisqu'il ne vient plus jamais à Noël. La famille, ce sont ces gens coincés ensemble à chaque mariage et qui se détestent. Le prince héritier saoudien s'est fait remonter les rotelles par son père. Louis Alliot a contredit Marine Le Pen, sa petite chérie. Bref, cette semaine, dans les familles, on s'est disputé, on s'est trahi.
Et ça sera à suivre sur Inter. C'est la bande originale. Bienvenue si vous nous rejoignez avec Leïla Kadoghoudadou, Alison Wheeler, Tanguy Pastureau, Albert Albou, Daniel Morin et notre invité Blanca Lu. Et ce spectacle électrique avec ces deux cas et avec ces 8 danseurs qui sont... c'est la compagnie Blancali, c'est une compagnie. Quelle est l'importance d'appeler ça une compagnie?
Et j'aime bien que les danseurs qui travaillent avec moi, qui vont partir dans une aventure avec moi pendant des années, et partent avec moi et mon nom.
Et que ce soit une histoire.
Oui, parce qu'à chaque fois qu'on commence un spectacle, des fois ça dure 3, 4, 5 ans. Et donc pour moi c'est important parce que c'est moi qui fais attention à tout, qui m'occupe de la tournée, qui les accompagne. Donc là en ce moment j'ai un autre spectacle qui s'appelle Solstice, qu'on a fait la première au Théâtre National de Chaillot en septembre, qui est un spectacle sur l'environnement avec 14 danseurs et un musicien de danse contemporaine. Et c'est aussi ma compagnie parce que c'est les gens avec qui je partage un moment de ma vie et qui travaillent en représentant mon travail dans le monde entier. Donc j'appelle ça ma compagnie.
Et quand vous dites que vous êtes soutenu par Access Industries, c'est quoi Access Industries?
Et c'est un producteur américain qui m'a aidé sur ces spectacles parce qu'on n'arrivait pas à trouver les financements. Donc j'ai eu la chance de trouver ses partenaires à New York qui m'a aidé pour pouvoir créer les spectacles.
La Maison des Arts de Créteil vous a aidé également.
Aussi.
La scène nationale du pays de Montbéliard vous a aidé aussi.
Oui.
Je les cite parce qu'on disait tout à l'heure que c'était difficile de monter des productions de danse.
Oui, ce qui moi m'a toujours aidé beaucoup avec la compagnie, c'est les théâtres et les directeurs de théâtre qui aiment mon travail et qui participent des fois, par exemple, me prêtons la salle pour répéter, tout simplement, des fois pour nous proposer une résidence, des fois ils nous font des préachats. Enfin, on trouve des manières à pouvoir monter des productions comme on peut, parce que c'est très très difficile, et grâce aux directeurs de théâtre et au théâtre comme au Créteil, où j'ai fait mes spectacles depuis 15 ans, que des fois on a pu réussir à finir les spectacles.
Il y a plein de lieux assez incroyables à Paris, des petits lieux, je pense par exemple au centre Wallonie-Bruxelles qui est en face de Pompidou, où on peut aller voir des chorégraphies. Alors, soit c'est des danseurs du cru, mais il y a plein de gens qui viennent voir, des programmateurs qui ensuite prévoient de les faire danser ailleurs. Et donc, c'est des endroits de découverte pour les jeunes chorégraphes qui veulent se faire connaître.
Il y en a partout en province, comme ça, des petites salles aussi. Mais il faut... saluer ceux qui soutiennent, en tout cas.
Le plus important pour la danse, c'est pas seulement d'aider les chorégraphes à créer leur chorégraphie, mais de leur proposer un endroit pour montrer leur travail. Parce que si on ne peut pas montrer, parce que le théâtre, des fois, c'est difficile d'avoir la programmation dans les grands théâtres. Donc,
Et là, c'est au 13e art, c'est facile. Une fois que vous êtes devant soit le ministère des Finances, soit le Palais Omnisports de Paris-Bercy, c'est tout droit, vous traversez la Seine.
C'est à la place d'Italie.
Voilà, donc tout au bout du boulevard. Exactement, au bout du boulevard. Cette création.
Il faut venir avec toute la famille parce que les enfants, ils adorent ces spectacles.
J'allais dire, c'est en famille, c'est drôle, c'est rempli d'énergie, c'est puissant et c'est impressionnant. Et puis ça fait même plaisir de voir les danseurs aussi avec le sourire parce qu'on a le sentiment qu'ils s'amusent, mais évidemment que c'est du travail, évidemment qu'ils ont
ils ont peur de se faire virer. Hein, c'est souvent ça, c'est souvent.
Un dépassement physique, non, mais ils arrivent à faire des trucs incroyables.
Il y a des illusions d'optique incroyables vu la vivacité des mouvements de bras. Ça, c'est très très beau à voir et c'est étonnant visuellement. La cinétique. Là, est maîtrisé, dépassé. Même.
Et la lumière, les projections aussi, le jeu d'ombre qui se fait aussi avec les bras, avec les triangles. Non, c'est vraiment bien fait.
Merci.
Et c'est signé Blanc-Cali.
C'est vrai, c'est beau.
Voici celui qui maltraite l'info sur Inter, Monsieur Tanguy Pasco. Tanguy, les histoires de famille, c'est toujours très compliqué.
Oui, il n'y a rien de pire que la famille, ces gens qu'on n'a pas choisis et qui à chaque dîner vous demandent « Il est comment, Nagui ?» En tout cas, pour ma famille, à moi, puisque tout le monde n'a pas la chance de fréquenter le Gotha. Je pense au public ici en studio qui vient pour Nagui et qui se retrouve parfois placé derrière Daniel Morin, comme dans une chenille dont celui qui est en premier n'aurait aucun sens du groove et trop de poils pour que ça finisse pas en orgie. Alors bien sûr, je réponds « Écoute, Nagui s'habille bizarrement, mais avec un peu de bol, il va croiser Christine Cordula sur un plateau qui va faire un groupe avec Arlette Chabot et les cheveux de Nathalie Saint-Cricq. Ensuite, ça ira mieux, mais sinon, il est super. Et là, je finis mon dessert en espérant que personne ne me demande comment est Ardisson en vrai. Enfin, ma vie est éreintante. L'an dernier, je bossais sur France 3 avec Dave. Au moins, personne ne me parlait. Alors, la famille, c'est donc comme le Rubik's Cube quand on est daltonien, c'est pénible. Ainsi, en Arabie Saoudite, ce riant pays où il fait 50 à l'ombre, ce qui fait qu'on a 9 secondes pour bouffer un micojet avant qu'il fonde sur les doigts. Le jeu Le jeune prince et son père sont fâchés. Alors le jeune, c'est Mohamed Ben Salman, 32 ans, un ouf, qui en 8 mois a tout réformé dans son pays. Macron à côté, c'est Giscard d'Estaing en train de se frotter la peau du crâne sur le cuir de son fauteuil de relaxation à l'heure de la sieste, 9h-22h. Grâce à Ben Salman, les femmes, donc depuis récemment, peuvent conduire et aller au stade, hein, des voitures et du foot. Si on les autorise en plus à siffler des bières, on va jumeler les villes saoudiennes à Lens et Valenciennes, et édifié à Riyad une statue de Jean-Louis Borloo intitulée « L'avenir ». Ben Salman a aussi autorisé les cinémas. Wow. Avant, ils étaient interdits. Ryan Gosling, là-bas, avait la même renommée que Nicole Belloubet chez nous, c'est-à-dire pas. Et il va même permettre le port du bikini sur certaines plages. Bref, d'ici 10 ans, l'Arabie Saoudite, c'est Pattaya, le pays du sexe et des boobs, avec Carole Rousseau en train de filmer pour 90 minutes enquête spéciale coke et prostitution. Frédéric BD qui dira non, mais j'avais fait le tour du Pays Basque. Le prince est totalement déjanté, c'est un punk. Au point de dire cette semaine, je cite, qu'Israël a le droit de vivre en paix sur son territoire. Pour un leader arabe, c'est dément. Hein, c'est comme si Nicolas Maduro au Venezuela téléphonait à Mélenchon pour lui dire merci bien, mais finalement samedi je suis allé à Disneyland, j'ai kiffé Peter Pan, désormais je suis pour le capitalisme, je te laisse bébé, j'ai BFM Business sur l'autre ligne. Hein, d'ordinaire, le monde arabe est pro-palestinien, les États-Unis sont pro-israéliens, l'Europe dit ouais, c'est compliqué, on réfléchit et ne fait rien. Puis le monde entier s'embrase parce que le conflit israélo-palestinien, c'est comme le sexe. Il y a 1% de gens qui le vivent, mais 99% qui en parlent.
Et là, le père du prince héritier est intervenu.
Oui, le roi Salman, 82 ans, s'est dit « Oula, le gosse, il part en vrille. Si ça se trouve, il a autorisé la drogue et il carbure aux poppers. » Et il a écrit un communiqué disant que les Palestiniens devaient avoir leur État avec comme capitale Jérusalem. Tout le monde veut être à Jérusalem. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que des barbus en train de prier. Il y a plus de poils que dans la carrière de Brigitte Lahaie. C'est comme le canal Saint-Martin, mais en mystique. Alors que si les Palestiniens voulaient comme capitale Tulle, eh ben on leur donnerait. Hein, il n'y a que Hollande là-bas, sinon c'est vide. Bon, là-dessus, le roi a appelé Trump pour dire du bien des Palestiniens, alors que quand Mohamed, son fils, a soutenu Israël, il était avec Trump. Donc l'autre se retrouve dans la position de Pascal, le grand frère, à régler les affaires de famille. Mais un Pascal avec un bouton nucléaire. Si bien que quand il crie « Tu vas te calmer, Kevin, ou je te défonce à coups de pelle », on l'écoute. Alors l'idée de Ben Salman, le jeune, est de tout faire pour contrer l'Iran, quitte à faire ami avec Israël. Mais bon, moi j'ai signé en tant que comique, donc écrivez à Bernard Guetta, France Inter, horaire prestigieux, 75-116 Paris, qui vous expliquera. Autre exemple de famille déchirée, Marine Le Pen, celle qui part en sucette quand elle débat, s'est prononcée en faveur de la grève des cheminots, parce que tout ce qui peut plomber Macron, elle est pour. Ainsi Nemo lui mord la main en voulant choper la baballe, elle posera en couverture de 30 millions d'amis allongés sur 16 labradors. Or, Louis Alliot du FN a dénoncé la gréviculture, la culture de la grève. Il l'invente des mots, cet homme c'est le Larousse, mais sans marque-page à l'intérieur. Et là où c'est compliqué, c'est qu'ils sont en couple, ils travaillent ensemble à l'Assemblée et ils vivent ensemble, tel Manuel Valls et Pipou, son ami imaginaire, celui qui le pousse à continuer la politique alors que c'est foutu. Enfin, si Le Pen et Alliot font les amours, ils vont avoir 25 bonnes réponses sur 19. Et Bruno Guillon pourra se dire « j'ai pas récupéré le jeu du siècle, mais il y a des bons moments ». Donc là encore, comme avec les Salman, discours inintelligible, un dit un truc, l'autre dit le contraire, le militant FN est largué et va succomber aux sirènes de Florian Philippot, le patriote aux yeux mi-clos qui tortille du bassin comme Shakira pour attirer à lui les déçus du front. Lui est tout seul dans son parti, donc il n'y a personne pour le contredire. La vie de Marine Le Pen est par conséquent un calvaire long comme un voyage en RER. Quand c'est pas son père qui lui dit qu'elle est nulle, c'est son compagnon qui la plante, ça va se finir à la Ligonnès, elle va péter un câble et zigouiller tout le monde. La famille Nagui, c'est un enfer.
Enfer, c'est les autres.
Oui.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Blancali est notre invitée, la célèbre chorégraphe qui n'arrête pas. On l'a dit tout à l'heure, Leïla a descendu la liste incroyable des personnes pour lesquelles vous aviez travaillé. Mais j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est pas le passé, c'est l'avenir, c'est le futur. Comment se faire valoir? Est-ce qu'une chorégraphe a un agent, par exemple? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous représente et va faire valoir votre talent auprès d'artistes, de cinéastes?
Dans la danse, on fonctionne pas tellement avec les agents. J'ai des gens avec qui je travaille, qui me proposent des choses, mais en général, on a notre propre équipe. Et moi, tout ce qu'on fait, je le fais à partir de mon équipe.
Alors, comment trouver un nouveau projet? Je parle pas de vos créations et de vos spectacles, mais est-ce qu'on démarche des artistes pour faire des clips, pour faire des pubs?
Non,
ou
général,
c'est eux qui viennent nous chercher?
En général, on m'appelle, on nous écrit directement sur
le mail, oui, mais...
sur le mail, on reçoit des projets. Et après, si c'est des projets qui m'intéressent, je rencontre les gens et on en parle. Ou si je ne peux pas les faire, on dit non. Mais la plupart des projets viennent directement.
Vous refusez des fois?
Oui, bien sûr.
Pourquoi?
Par exemple, je refuse de faire une chanson que je n'aime pas, par exemple.
Carrément.
Ça m'est arrivé de me demander de faire, par exemple, un clip ou une chorégraphie. Mais si la chanson, je n'aime pas, j'ai beaucoup de mal.
Il faut sentir donc la musique.
Oui, il y a des projets aussi, si j'aime pas les contextes, ou si je dis non, moi je dois aimer ce que j'ai fait. Je peux pas trop faire les choses que j'aime pas.
En ce moment, ouais.
Ça m'est arrivé de faire des choses que je croyais que j'allais aimer, que j'ai pas aimé. Et au contraire, des fois, j'ai fait aussi des choses que je me dis, oh, je suis pas sûre, je le fais un peu, bon, je vais le faire en pensant que ça allait être très, très, très dur ou difficile et que j'ai eu des expériences magnifiques. Donc, c'est toujours délicat de dire.
Vous m'avez dit
non.
Ça en rentrant en studio tout à l'heure. Ça va être difficile cette émission. Et là, finalement, ça se passe
bien. Oui, c'est vrai. J'avais peur que tu me fais danser sous la table encore. Hein.
Alors, à propos de la chorégraphie sur la table, on l'a mise sur le Facebook, hein, si vous voulez voir Blancali danser sur la table de Daniel Morin et d'Albert. Si, on a remis.
C'était filmé.
On a retrouvé les images. On a retrouvé les images. Donc,
non, vraiment, hein. On n'a pas d'intimité. Hein.
À voir sur Facebook. Là, en ce moment, vous avez combien de spectacles en même temps qui se produisent?
J'ai 4.
Alors, il y a Éclectique au 13e art.
Éclectique électrique au 13e art.
Pardon, électrique, c'est éclectique, mais c'est électrique au 13e art.
Éclectique jusqu'au 14. Après, j'ai Solstice, qui est en tournée dans toute la France, depuis le mois de septembre. Et après, j'ai Des et Démon, qui est un spectacle, un duo dans lequel je danse, avec Maria Alexandrova, une étoile de Bolshoi Ballet. Et c'est un duo qu'on a créé tous les deux, que j'adore parce que c'est vraiment, c'est sur la femme, la féminité. Et on est en tournée depuis 2 ans avec ce spectacle. Et j'ai un 4e qui est Robot, qui continue à tourner depuis presque 600 maintenant.
Et alors, comment vous faites lorsqu'un spectacle, lorsque vous ne pouvez pas être partout, donc il y a des spectacles qui se produisent de la compagnie Blancali sans que vous y soyez, est-ce que vous demandez à ce que ce soit filmé pour voir chaque soir sur Internet en rentrant, vérifier si le travail a été bien fait
oui,
ou pas?
Oui, oui, oui. J'ai une équipe malveillante.
Caméra de sécurité.
J'ai une équipe d'assistants qui sont des danseurs qui ont commencé à travailler avec moi depuis 15-20 ans, presque certains quand j'ai arrivé en France, qui ont resté avec moi, qui ont devenu mes assistants, qui connaissent mon travail comme moi, qui savent exactement comment j'aime les choses et qui partent quand je ne peux pas être avec la compagnie en tournée avec. Donc, ils vont faire les répétitions, la préparation, qui vont filmer les spectacles et que s'il y a des choses qui doivent me montrer, ils m'envoient les films régulièrement. Donc, après, je regarde, ils me disent il y a eu un problème avec ça et j'ai comme un rapport tous les jours de ce qui se passe quand je ne suis pas là.
En fait, vous êtes malheureuse.
Total contrôle.
Où est-ce que j'allais dire? Non, mais vous êtes malheureuse quand vous ne travaillez pas. C'est le travail pour vous, c'est la clé du succès.
Et j'aime beaucoup travailler, j'aime mon travail. Et aussi, je pense que dans le travail, c'est là où je suis. C'est surtout dans la création que je suis la plus heureuse. Quand j'invente, quand je suis dans les studios en train de faire n'importe quoi, ouais, avec plein d'idées, que je ne sais pas ce que ça va donner. Ces moments d'excitation, c'est comme une drogue pour moi.
C'est pourtant les moments les moins fréquents finalement, parce que il faut, vous dites voilà, les tournées, il faut assurer le suivi ouais. des spectacles, donc finalement les moments de création pure, c'est des espaces de plus en plus rares, surtout quand on est obligé pour faire tourner une compagnie d'avoir plein de spectacles.
Pas tellement, parce que je suis quand même très créative ouais. et je suis tout le temps en création, même si je suis en voyage, parce que et il y a aussi toute la partie de création, de l'écriture, ouais. de les idées qui viennent, donc, et j'ai tout le temps comme la tête qui est comme ça en train de préparer, là je suis déjà sur les prochains projets, j'ai déjà des réunions pour les maquettes, pour créer. Donc, c'est pas. La création est ce moment où on est dans l'excitation de. On ne sait pas ce que ça va être. Et comme j'aime tellement, je provoque tout le temps des nouvelles créations.
Toujours jeune, toujours dynamique, toujours inventive, tout le contraire de Daniel Morin. Que voici.
Et pourtant, chers amis présentant dans la table, chers auditeurs, agrippés à votre radio, est-ce que vous connaissez Bruno Bonnel? Ou plutôt, est-ce que vous avez la chance de connaître Bruno Bonnel? Bruno Bonnel est un génie. Un génie moderne, un gars plutôt cash. Petite présentation. Notre héros du jour, Bruno Bonnel, est un député de La République En Marche de la 6e circonscription du Rhône. À l'occasion d'une interview, il a déclaré ce qui se dit en circonscription, j'en ai rien à foutre. Yes, yes, voilà un bon représentant du peuple. C'est pas de la langue de bois, c'est méga cash. Et il rajoute, je suis pas là pour faire l'assistante sociale, hein, pour les places en crèche ou les logements, allez voir ailleurs. Allez, 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 allez. Oh, ça c'est vrai, il en a rien à foutre. Parmi les déclarations cash de Bruno, il y a, je comprends que mon style direct puisse bousculer des habitudes. Ou encore, j'ai une vie passionnante. Oh, le gars, il est chef d'entreprise. Tu l'imagines dans le boulot? Tu imagines l'arrivée de Bruno au bureau? Salut les connards, c'est moi, c'est le patron. Ouais, j'arrive à 11h20. Eh ben c'est comme ça, je suis le boss, je fais ce que je veux. Je comprends, ça énerve, mais vous savez quoi? J'en ai rien à foutre. Mais il a raison, bon Dieu mon Bruno. Il est le chef, il fait savoir, il fait juste comprendre au CSP- que grâce à son travail, sa vie géniale et son ambition, il a réussi. Et ça peut galvaniser les troupes. Je l'imagine trop arriver à la caisse du supermarché, mon Bruno. Poussez-vous les pauvres, allez poussez-vous bordel. Non, je fais pas la queue, j'en ai rien à foutre. Je suis pas un loser comme vous tous, j'ai une vie passionnante moi. Je suis chef d'entreprise, député et je suis cash. Allez, dégagez bande d'abrutis. Ouais, toi aussi le papy avec la canne. Allez, toi aussi, tu bouges la femme enceinte. Sérieux, waouh, c'est un mec comme Bruno qu'il nous faut comme président de la République. Je le vois déjà en réunion avec les syndicats pour discuter de la réforme de la SNCF. Non, désolé monsieur le président, mais nous n'acceptons pas les termes de votre réforme, c'est un vrai scandale. Si vous vous obstinez, ce sera la grève, une grève longue et très suivie, croyez-moi. Ah ouais? Absolument. Eh ben vous savez quoi les prolos? Eh ben j'en ai rien à foutre, je suis pas assistante sociale moi, je mettrai des flics pour conduire les trains. Hein, si je vois un gréviste bloquer une gare, les menottes, la tôle, pas de garde à vue, pas de jugement, la tôle direct, je suis cash. Ouais, je comprends, ça dérange certains, mais je suis comme ça. En plus, j'en ai rien à foutre, j'ai une vie passionnante. J'aimerais tellement le voir rentrer chez lui. Bonjour chérie, tu as passé une bonne journée? La ferme, j'ai faim, on mange. Mais enfin, il est 15h, le dîner c'est 20h, voyons. J'en ai rien à foutre de ce qui est prévu, je veux dîner maintenant. Je comprends que mon style direct puisse bousculer et déranger, mais faut me comprendre, j'ai une vie passionnante. Allez, bouffe, merde! Ah oh, putain, c'est tellement cash, j'en frissonne. Je l'imagine à la place de Nagui. Oh, ce serait un tellement bon carnage. Ouais, bonjour, c'est la bande originale. Aujourd'hui, notre invité est Blanca Lee. Bon, tu fais quoi dans la vie, Blanca? Danseuse? Ouais, super, c'est hyper radiophonique la danse. C'est quoi cette programmation pourrie? Tu peux pas nous chanter un truc, Blanca, puisque t'es là? Bah non, j'imagine, si tu danses et que tu chantes comme une casserole. Bon, allez, en plus, la danse, j'en ai rien à foutre. Allez, on va se passer l'intégrale de Sardou jusqu'à midi et demi, ça ira bien. Sardou, il est comme moi, il dérange parce qu'il est cash. Mais Michel et moi, vous savez quoi? On en a rien à foutre. Ça fait rêver, non? Alors, je vous rappelle le nom de ce monsieur, hein, qui est quand même un élu de la République, il s'appelle Bruno Bonnel. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que ce qu'il pense et ses interviews, eh ben en vrai, on en a rien à foutre. À demain.
Merci.
Avec Nadia. Blanca Lee, avec cette chorégraphie, ce spectacle organisé au 13e art qui s'appelle Électrique, la compagnie Blanca Lee le propose, mais vous l'avez entendu tout à l'heure, quatre spectacles tournent en même temps, dont un où vous êtes en scène pour exprimer la féminité, vous êtes deux, pardon, sur scène pour exprimer la féminité. Quelle est la plus grande angoisse que vous ayez? C'est le problème physique, le pépin du muscle pour un sportif?
Oui, je pense que quand on est danseur, et le pire qui peut nous arriver, c'est quand on se lésionne, qu'on ne peut plus travailler. Et malheureusement, ça arrive tout le temps. Et à chaque fois que ça arrive, ça nous rend plein de tristesse. Parce que, par exemple, quand on a commencé la création des solstices, et je pense au troisième jour de répétition, il y a une danseuse, on était en train de faire un petit saut. Elle a tombé par terre et elle a senti quelque chose. Et voilà, elle avait les ligaments cassés. Et ça peut arriver comme ça en un second, et d'un coup, elle a pris presque 6 mois pour revenir à l'équipe. Ouais. Et ça, c'est terrifiant. C'est comme les sportifs. Hein. C'est vraiment... On vit avec cette
angoisse
et qui fait que, comme notre corps, c'est notre instrument de travail, si on se fait mal... Et on ne peut plus travailler.
Les chorégraphies, on le voit et on l'a vu avec Électrique et ses 8 mâles extrêmement bien musclés, trop musclés.
Calmez-vous, Nagui.
Non,
c'est très énervé.
C'en est gênant. Très énervé de ne pas ressembler à l'un des 8, oui, je te confirme. La nudité est toujours abordée dans le monde de la danse comme étant.
Mais on dirait qu'ils sont tous à poil. Ouais. Comment ils parlent comme ça?
Ils sont
juste torse nu. Il est en train de faire une description d'un spectacle.
Je dis dans le monde de la danse.
Ils fréquentent certains établissements.
Ah d'accord, non, parce que dans mes spectacles ils sont pas nus.
Non, ils sont torse nus. Ils sont torse nus. Mais dans le monde de la danse, la nudité est souvent abordée.
C'est vrai.
Ouais, je trouve de moins en moins, moi.
Il y en a eu.
Oui, il y en a eu, mais de moins en moins, je trouve qu'on en voit sans doute plus au théâtre que je trouve que j'en vois plus des cornues au théâtre qu'à la danse.
Est-ce que c'est une manière de faire parler? Est-ce que l'un des problèmes, c'est de se dire, mais comment on va les habiller? Là, ils sont en costume blanc.
C'est sûr que ça coûte moins cher, hein.
Il n'y a pas de pressing derrière, en plus.
Pas de pressing, pas rien, quoi. Non, je pense, il y a toujours beaucoup de nudité dans les spectacles de danse. Mais après, je pense que nous, on a une relation avec les corps qui
naturelle.
Oui, ouais. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout inquiet. Les danseurs sont pas des problèmes à montrer leur corps, à se toucher. Il y a pas donc ça veut dire que oui, c'est naturel pour nous. On peut être nus sans problème. On n'a pas de problème avec les corps. Et c'est pour ça que beaucoup de chorégraphes utilisent des corps aussi.
Des excuses à présenter rapidement.
Désolé pour nos auditeurs racistes qui auraient décidé de ne pas aller voir le spectacle de Blanca Lee après avoir entendu que c'était un spectacle de danse assez jaune. Ah mais non, bande de cons. Elle a rien contre les Chinois ni les Vietnamiens. Blanca Lee, avec son accent bizarre, voulait dire jeune, pas jaune. Désolé pour Blanca Lee qui s'est proposé de chorégraphier les mots de Nagui pour m'aider à faire des phrases. Écoutez Blanca, nous ça fait 4 ans qu'on essaye. Franchement, c'est galère.
Il y a du boulot.
Désolé pour Nagui, qui a pris ce matin, par Blanca Lee, un cours magistral de licenciement massif. Imagine, 300 candidats, une audition, 60 retenues, 240 virées, pour en garder finalement 10. Calme-toi, Moubarak Junior. Ta boîte de prod, tu réussiras à faire ça un jour.
Merci, Blanca Lee, d'être venue. Et bravo, surtout, pour tout ce que vous faites. Demain, Jean-Christophe Ruffin sera notre invité pour son nouveau roman, Le Suspendu de Conakry, avec ses histoires d'ambassade et carrément, c'est une enquête policière de son consul, Aurel.